Chapitre 7 Intermezzo. En quittant brusquement le vieux Mérivet, après leur causerie autour de la petite église, Richard s'était heurté à M. Alexandre. Et le sourire en coin du larbin, l'ironie qu'il crut y voir, lui traversèrent l'esprit d'un jet de lumière.
Où sont-ils, les misérables? Mais cet homme le sait. Il le sait par Grosbourg et Rosine, chez nous, par Alexandre.
Et pendant qu'il arpentait la route déjà brûlante, son ombre ramassée et courte à côté de lui doublait les gestes d'un furieux soliloque.
Suis-je bête de n'y avoir pas pensé plus tôt, d'être allé si souvent me morfondre à ce guichet de poste, pourvu maintenant que cette fille parle? Oh, elle parlera, sinon...
Justement, Rosine Chuchin, qui montrait en plus jeune et plus fin la physionomie chafouine de son père, le garde-pêche, apparut à la petite porte du parc, en haut de ses deux marches, d'où elle avait failli tuer son maître avec l'annonce du départ de Lydie. En chapeau de dame et petits souliers, un paroissien doré sous le bras, la servante attendait quelqu'un. Elle s'écarta devant Richard, avec ce sourire vague et subalterne, où l'on peut voir tout ce qu'on veut. Mais il la fit tourner des deux bras en l'accotant contre la porte qu'il fermait d'un coup de pied.
« Où est madame? Tu le sais! Dis tout de suite! Où est madame ?»
Il la secouait brutalement. Elle, stupéfaite, sans comprendre d'abord, bégayait.
« Mais non, monsieur Richard, je ne le sais pas, moi, où est madame? En revenant de la grand-messe, elle a trouvé une dépêche. »
« Je te parle de ta maîtresse, ma femme !»
Il dit le mot avec effort.
« Où est-elle ? »
Et, voyant qu'elle allait mentir,
« Jamais je ne me suis mêlé de tes histoires, mais je les connais, tu penses. Si tu crois que je ne vous entends pas quand ton amant vient à la lingerie, je n'aurai qu'un mot à dire pour que ma mère te jette à la rue et que le père Chuchin... »«
Oh, monsieur Richard !» !»«
Alors, pas de tricherie !» Quand Alexandre leur écrit, où adresse-t-il ses lettres?
L'involontaire oscillation de tout ce corps de robuste campagnarde témoigna son incertitude, puis elle finit par livrer en chuchotant le nom de la ville et de l'hôtel. Richard fut anéanti. Il les croyait loin, au-delà des mers, hors de toute portée. Ne lui avait-on pas parlé d'un voyage dans les Indes? Et voilà qu'au lieu de bondir sur sa vengeance toute proche, il se sentait subitement calmé, sans renoncer pourtant à son départ, car il chargeait Rosine de lui préparer le sac de nuit.
« Tu sais, la mallette que j'emporte quand je vais chasser aux étangs de Mérogis. Surtout, pas un mot à ma mère. Elle est allée, dis-tu,
à la gare de Villeneuve avec la Victoria. »
« À Villeneuve, maman, et pourquoi faire ?»
Madame Fénigan ne sortait jamais que pour la messe.
Je ne sais pas, monsieur Richard, mais je vais profiter de son absence pour prendre le sac de nuit resté au château.
Elle s'engageait sous la charmille. Il la rappela.
Entre dans ma chambre en même temps et prends-y.
Il ne sut comment demander son revolver dans le tiroir de la table de nuit. C'était si bien souligner ses intentions, il en eut comme une gêne.
« Non, rien, j'y vais. »
En visitant son arme, il s'en voulut de cet apaisement subit et inexplicable.
« Pourquoi cela? Comment l'idée que demain, à la même heure, je serai vengé si je veux, comment cette idée m'a-t-elle à ce point refroidi? Suis-je donc tout à fait lâche ou seulement incapable d'une détermination ?»
Alors, pour s'exciter, reprendre son élan furieux de tout à l'heure, il chercha les lettres de Charlexis à sa femme, qu'il gardait là dans un coffret, pour les avoir toujours sous la main, sous les yeux.
Ah, ce fut vite fait! Dans ce cerveau un peu assoupi, alenti par les torpeurs du plein air, l'imagination avait besoin, pour s'aviver, de représentations extérieures.
Ainsi de certains voluptueux qui appellent le livre et l'image à l'aide de leurs sens amortis. Ces lettres, il les savait par cœur. Mais à la lecture, les phrases prenaient corps, les mots étincelaient comme des regards. Le roulement de la Victoria sur le sable l'arracha à ses visions. Sa mère, déjà! Il serra les lettres en hâte, désolé de n'être pas parti sans l'avoir vu. Maintenant, il faudrait un prétexte pour expliquer le voyage, éviter les larmes, les supplications. Il cherchait en descendant au-devant d'elle et se montra sur le perron, comme la voiture se rangeait tout au bas. Quel ne fut son étonnement d'apercevoir le siège du cocher encombré de colis et, près de Madame Fénigan, sous une ombrelle d'un rouge écarlate, une jeune femme, coiffée, vêtue du même rouge, depuis l'aigrette de sa toque de voyage jusqu'à la soie de ses bas à jour, qu'elle laissa voir en sautant de la voiture avec une impétuosité de jeune garçon.
« Bonjour, Richard »
cria-t-elle joyeusement en aidant à descendre Madame Fénigan qui faisait des signes à son fils. La voix sonnait, jeune et fraîche, dans un gentil accent du pays, entendu déjà, presque familier. Cependant, Richard hésitait quand la mère, montant le perron au bras de la dame en rouge, l'annonça.
« Élise ! Voyons, la cousine de Lorient !»
Un essaim de souvenirs, de minutes amoureuses et heureuses, tourbillonna dans sa mémoire. Il revit la cousine, toute ronde et menue, galopant près de lui dans les plaines de Sainte-Geneviève-des-Bois, à la portière du Landau, où François Belleguic, riche entrepreneur de charpente, et Madame Belleguic, née de Kergabélec, convenaient avec Madame Fénigan du prochain mariage de leurs enfants, qui déjà s'entendaient à merveille. Les deux mères, par malheur, se ressemblaient trop pour s'entendre. Madame Belleguic, née de... etc., était une bretonne taillée dans la pierre dure, encore un bon tyran qui prétendait mener tout le monde comme elle tenait son mari, la main ferme et les guides hautes.
« François, qui n'est pas un aigle !»
disait-elle en parlant de lui, devant lui, et le mari, chaque fois, s'inclinait, souriant et béat. Sans rien d'un aigle, en effet, soumise aux joues conjugales qui, à la longue, lui avaient déformé la nuque. Richard, à la suite d'une scène violente entre les deux bons tyrans, dut prendre parti pour sa mère, contre les parents de celle qu'il caressait déjà d'un regard de fiancé. Il se sacrifia, surtout par faiblesse, impossibilité matérielle de dire non, mais gardant au fond du cœur une vraie peine, disparue sous l'effaçure du temps et de blessures autrement profondes. En ces 12 années, Madame Belleguic, née de Kercabélec, avait rejoint ses ancêtres. François, qui n'était pas un aigle, désolé de ne plus se l'entendre dire, suivait sa femme dans le tombeau. Élise, mariée à un chirurgien de marine alcoolique et brutal qui la battait comme à la mécanique, avait obtenu sa séparation de biens et de corps, ensuite le divorce, sitôt la loi votée. Madame Fénigan fulmina d'abord de toute son indignation de catholique orthodoxe. Ce fut même, à l'époque, entre elle et Lydie, prétexte à des discussions aigre-douce où les « chères mères » et « chères filles » se croisaient en sifflant avec des jets corrosifs. Puis sa bru partie, devant l'abandon et la tristesse de son fils, à qui elle croyait que pourrait suffire sa tendresse de mère sans effusion, ses idées changèrent sur la divorcée et même sur le divorce. Elle se rappela qu'Élise et Richard s'étaient aimés. Un remords lui vint de son caprice à briser ce mariage qui leur eût épargné à tous tant de chagrin. Remords d'autant plus sincère que la disparition des Belleguic lui laissait l'entière autorité dont elle était si jalouse. Alors, sans une décision bien précise encore, guidée par son instinct de mère et les avis du curé de Draveil, son confesseur, elle écrivit en cachette à la cousine de Lorient de venir passer quelque temps aux Uzelles, et la cousine, peu rancunière, était accourue. Sa présence eut ce premier effet d'empêcher le départ immédiat de Richard. Il ajourna à un train du soir et déjeuna en face d'Élise, amusé de retrouver sans rire clair le joli retroussi de ses yeux et de ses lèvres éblouissantes. Elle était de cette race de privilégiés sur qui la vie roule en torrent ses intempéries et ses catastrophes sans que la moindre marque leur en reste. Après tant d'années de deuil et de larmes, il la revoyait aussi gaiement étourdie, toujours son goût provincial du clinquant et du voyant, toujours sa petite rangée de grains de riz entre les lèvres, sa joue brune et rose à duvet de fruits, seulement les bras plus ronds, la peau plus blanche et une science du décolletage, impudente et naïve, bien pour intimider son craintif voisin de table. Richard, à tout instant, se détournait, glissait un regard en rougissant et remplissait de joie la coquette brave fille, à qui la mère avait dit très simplement « Mon enfant est malade, guéris-le-moi » Comme ils achevaient de déjeuner, Élise eut un cri de détresse.
« Et mon sac ?»
Un petit sac en cuir rouge dans lequel elle serrait argent, titres, bijoux, tout son avoir. D'abord, on ne s'alarma pas. Arrivée depuis une heure, que n'avait-elle égaré? Bien sûr, le petit sac se retrouverait comme l'éventail, les bagues, l'ombrelle, éparpillées autour de cette gentille personne par ses perpétuelles virevoltes de mouvements et d'idées. Après de longues recherches, il fallut pourtant convenir que le petit sac était resté dans le wagon, ou peut-être à la gare de Villeneuve, le cocher Libert affirmant ne l'avoir pas vu sur le siège avec les autres colis.
« Que Libert retourne à la gare !» dit Madame Fénigan. « Merci, cousine, je suis trop inquiète, j'irai moi-même. »«
Élise, je vous conduirai, » proposa Richard. « Nous prendrons le boguet pour aller plus vite. » Et la cloche sonnant le déjeuner de l'office, le bon garçon descendit atteler lui-même pour ne déranger personne et ne pas perdre de temps. Restés seuls, un même élan poussa les deux femmes aux bras l'une de l'autre.
« Ah, chère fille, si tu pouvais !»«
Mais il me semble, ça ne va pas trop mal. Laissez-moi faire, vous verrez. »«
Tu l'as trouvé changé ?»«
Surtout pâlie, les traits allongés. » Je l'aime mieux ainsi, plus distingué.
Mais vous me l'aviez annoncé si triste, cousine, et il fredonne tout le temps. »
Elle esquissait le « poum, poum », l'accompagnement en basse de la sonate.
« C'est quand il pense à elle qu'il chantonne comme ça, » dit la mère.
« Il y pense toujours, alors. Est-ce possible, après ce qu'elle lui a fait ?»«
Tu ne comprends pas, moi non plus, ma pauvre enfant. »
D'en bas, Richard appelait, déjà sur le siège. La cousine descendit vite le rejoindre. Deux grandes lieues séparent les Uzelles de Villeneuve-Saint-Georges. Dans la voiture légère qu'il menait lui-même à toute bride, Richard fit le trajet en moins d'une demi-heure. Quand le boguet entra dans la cour de la gare, encombré d'omnibus, de carrioles, de voitures de maître, évoluant parmi la bousculade des Parisiens endimanchés, Monsieur Alexandre, en toque écossaise, la sacoche en sautoir, roulait une cigarette devant la salle d'attente, regardant tout ce petit monde coureur de banlieue avec l'air de supériorité et de lassitude du voyageur qui a de longues traites à fournir. Prévenu par Rosine Chuchin des projets de son maître, puis de l'arrivée de la cousine, il pensait que Richard ne pourrait partir que par l'express du soir et qu'avec une avance de quelques heures, lui-même arriverait à temps pour avertir les amoureux. Son plan, ses grimaces, tout était prêt. Profiter de la peur, du désarroi des premières minutes pour embarquer le prince sur le bleu-blanc-rouge, emmener la dame par terre et les amants enfin séparés, mettre entre eux le doute, les mensonges, rendre tout rapprochement impossible. La subite entrée de Richard dans la cour tumultueuse vint bousculer toutes ses résolutions. D'un coin de la salle des troisièmes, il le vit sauter de voiture, passer sur la voie, évidemment pour prendre le même train que lui. Que faire alors? Comment monter en wagon sans être aperçu? Et en route, et là-bas à l'arrivée? Soudain, nouvelle apparition de Richard, agitant un petit sac rouge qu'il montrait de loin joyeusement à la dame restée dehors sur le siège du boguet. Il remontait en voiture à côté d'elle, lui reprenait les guides et, sans même effleurer son trotteur du bout du fouet, disparaissait dans la grande rue caillouteuse de Villeneuve aux regards épieurs de l'ancien maître d'hôtel. Richard partirait-il décidément? Ou si l'arrivée de la cousine l'avait fait changer d'idée? À coup sûr, rien en lui n'indiquait l'Othello bourrelé ruminant sa vengeance. Le train de Paris qui entrait en gare ébranla le quai. Des portes claquèrent. « Les voyageurs pour Lyon, Marseille, Nice !» Monsieur Alexandre hésita une seconde. Puis un mauvais rire tordit sa lèvre rase et il sauta dans le premier wagon à sa portée.
Pour entrer, Élise avait désiré prendre le plus long.
« Je tiens du petit chaperon rouge, » disait-elle en riant. « J'aime les chemins de traverse, les détours, où l'on s'égare à la chasse de tout ce qui a des ailes, de tout ce qui sent bon. Peur du loup, jamais de la vie. Quand le chaperon rouge sait s'y prendre, c'est pour le loup qu'il faut trembler. »
Grisée par la splendeur du jour, la vitesse de leur course, la joie de ses bijoux retrouvés, elle donnait bien l'impression du petit chaperon, tel qu'on se le figure avec sa coiffe incarnadine et le grelot de son rire d'enfant. Ils avaient pris le long de l'Yerre, petite rivière de Watteau, d'un bleu noir profond, frigide, endormie sous de hauts ombrages, entre des pentes vertes dont la fraîcheur contrastait avec la braise blanche du chemin.
« Gare, gare !»
Sur le passage du Bouguet à toute vitesse, les familles parisiennes qui encombrent les routes de campagne de la traînerie de leur dimanche s'écartaient vivement. Aux fenêtres de villas microscopiques, d'une variété burlesque, à tourelles, balcons, ornements de faïences ou de cailloutis d'un rose de nougat, se penchaient des silhouettes curieuses, et partout sur ces visages écrasés d'ennui et de fatigue, Richard surprenait la même expression de joie, de sympathie gagnée au passage de la plaisante créature qui leur souriait du haut de son siège. Comment aurait-il pu se soustraire au charmant joleur de ce sourire, l'homme assis à côté de la jeune femme, frôlé de sa chaleur vivante, du souffle frais de son gazouillis ou de ses boucles envolées? À tout instant, pour lui prendre les guides, le fouet, elle lui caressait la joue des rondeurs de son bras nu, ou voulant lui montrer un magnolia géant au cœur d'une pelouse, une escadrille de petits canards jaunes suivant le fil de l'eau, elle se penchait, mettait près de ses yeux l'échancrure de sa robe autour d'une nuque blanche et pleine. Sans qu'il s'en doutât, ses effluves féminins le charmaient, détendaient ses nerfs d'une tiédeur apaisante. En entrant dans le village d'Yerre, que traverse le grand chemin, il fallut changer d'allure. La fête du pays, annoncée de loin par des boîtes, des orgues, des tambours, des fanfares, une odeur âcre de friture, alignée des deux côtés de la chaussée, baraques et chevaux de bois. Serrée, portée presque par la foule plus compacte à mesure qu'on avançait, la voiture allait au pas. « Ça va, Eugène, et le petit ménage ?» À cette question de Fénigan, Eugène Sautecœur, dit l'Indien, qui marchait près du Bouguet, l'épaule à la hauteur du siège, se retourna, laissant voir sous la casquette ronde d'ordonnance sa large face violacée et anxieuse.
« Pas mal, merci, monsieur Richard, et les enfants de même. Seulement que le garçon fait ses 28 jours et que je reste chargé de ma belle-fille. Ce n'est pas tout le temps commode. Ce matin, nous avions des amis de son mari à déjeuner. » Elle a voulu les conduire à la fête. Bon sang, ce que je me fais vieux !»
Il tira du fond de sa casquette un foulard de couleur dont il épongeait son front suant, barré d'un pli farouche. Et regardant tout à coup autour de lui la foule que sa grande taille dépassait,
« Ah, la garce! Elle m'a encore fait voir le tour !»
Il salua militairement et se rapprocha vite des baraques en quête de sa bru que Richard, un moment après, apercevait sur la place de l'église, dans un groupe de jeunes flambards au grand col cassé, au mode de café-concert, en train de tirer à un jeu de massacre.
« Si vigilant que soit votre Indien, dit Élise, je crois qu'il aura du mal à garder cette chasse-là. »
« Je le crois aussi, cousine, mais il faudra qu'elle fasse attention, le père Sautecœur serait terrible. »«
Plus que le mari ?»«
Oh, le mari !» C'est un type de mon genre. »
Sur ce mot prononcé d'un accent douloureux et qui fut la première, l'unique allusion à sa détresse depuis l'arrivée d'Élise, Richard rendit la main au trotteur impatient de se sentir hors de la cohue et descendant à fond de train la rue en pente jusqu'à Lierre. Passé le petit pont, il s'engagea sur une route ombragée entre d'immenses parcs odorants et fleuris. Au lointain, sur le tumulte de la fête champêtre qu'ils laissaient derrière eux, la sonnerie de vêpres tombait, lente et grave, pareille à la phrase navrante qui venait d'assombrir à l'improviste la banalité rieuse de leur causerie. Aux Uzelles, ce soir-là,
après que l'immuable couvre-feu eut sonné pour tous les hôtes du château, on veilla tard dans la chambre d'Élise. Madame Fénigan, en flanelle blanche, son bougeoir à la main, ne se lassait pas du récit de leur promenade. Et la bougie se consumait, et les paupières du petit chaperon rouge devenaient lourdes, sans que la mère, entrée pour quelques minutes, s'aperçut qu'elle était là depuis 2 heures. Richard, pendant ce temps, stupéfait de se retrouver dans son lit, au lieu de rouler sur la route de Monte-Carlo, se demandait pourquoi son oreiller lui semblait si doux, ses draps si frais, après la fièvre des nuits précédentes, comment sa tendresse pour sa mère, les conseils affectueux du vieux Mérivée n'ayant pu le détourner de sa folle entreprise, il avait suffi d'un corsage entr'ouvert, d'une masse de cheveux tordus et dégageant une nuque étincelante pour changer la direction de ses pensées. Qu'un peu de chair de femme fût à ce point irrésistible, que dans un cœur bourrelé comme le sien, il y eût place pour un autre désir que de vengeance et de mort, toute la philosophie du pauvre diable s'y perdait et s'y agitait, longtemps après sa lampe éteinte. Le lendemain, il ne partit pas, n'en parla pas même. On n'avait qu'un cheval de selle à l'écurie, il fallut s'en procurer un second pour Élise. Et Richard prit l'habitude de sortir tous les jours avec elle. Silencieux par goût, par tempérament, l'équitation avait pour lui cet avantage qu'à cheval on ne parle pas, on ne pense qu'à demi, tout à la surveillance de la bête la plus capricieuse, la plus peureuse, d'une vision absolument disproportionnée à la nôtre. On devient un peu cheval soi-même. Dans la crise qu'il traversait, osant à peine regarder au-dedans de lui, Richard trouvait délicieux cet arrêt de sa personnalité. Lorsqu'après une de ses longues promenades au grand air, Madame Fénigan voyait son fils lui revenir épanoui, la voix et les mains bonnes, sans se pli toujours au même coin du front, indiquant la même sombreur de pensée, elle aussi rayonnait, s'imaginait la guérison prochaine, prête à croire, si Rosine ne lui eût avoué l'aventure de la valise, que Richard n'était pas aussi gravement atteint que le prétendait le curé de Draveil et ce vieux fou de père Mérivée. « Eh bien, fillette !» C'était sur un ton de malice mystérieuse, son mot de chaque soir, en s'installant dans la chambre d'Élise, mais les journées, les parties de cheval se succédaient, sans amener rien de décisif.
« Je fais tout ce que je peux, pourtant !» disait la jeune femme presque larmoyante.
Et la mère, l'encourageait, cherchait avec elle comment vaincre la timidité de Richard.
« Car c'est cela, vois-tu, ma fille, rien que cela qui l'empêche. Tous les hommes sont timides, et lui plus que tous les hommes. Croyez-vous, cousine? Alors j'essaierai encore. »
Elle essaya. Surprise un jour par l'orage dans la plaine de Courcouronne, il s'abritait, après une course éperdue, sous un hangar à l'entrée du pays. L'espace était étroit, la place de leur monture rapprochée.
« Comme mon cœur bat! Voyez, Richard !»
D'un geste irréfléchi, elle lui prit la main qu'elle appuyait sur le corsage haletant de son amazone. Richard en eut les sens bouleversés.
« L'autre, l'autre !»
murmura-t-il en glissant sa main libre sous la taille qui s'abandonnait. Et pendant 5 minutes, il s'étreignait voluptueusement, muet et pâle. Jusqu'alors, elle n'avait guère plus compté pour lui qu'une de ces hirondelles, entrant par le vitrail ouvert de l'isba, battant de l'aile contre les poutres et la coquille des épées. Maintenant, il se mit à l'observer, curieux de savoir ce qui se cachait dans cette âme toujours en liesse, derrière ce continuel gazouillis. Pourquoi ne pas aimer celle-là, si elle le guérissait de l'absente, et puisque sa mère semblait tant le désirer? Il y songeait, en faisant au salon, après déjeuner, une partie d'échecs avec Madame Fénigan, le lendemain de ce terrible orage qui avait raviné le jardin toute la nuit et rendu les routes impraticables. Gênée avec Richard depuis la veille, anxieuse d'un aveu qu'elle espérait, qu'elle sentait venir, Élise, droite devant une croisée, regardait dehors.
« Qu'y a-t-il donc ? »
demanda Madame Fénigan, dérangée de sa partie par des cris, des huées.
« C'est ce vieux mendiant, comment l'appelez-vous? Le père Georges, qui est dans un état! Et tous ses polissons après lui, ils lui prennent son bâton. Le malheureux, mais il va tomber !»
Il y eut du dehors une explosion de rire. Ivre, hideux, squameux, toute la boue du grand chemin sur ses loques, dans sa barbe, le vieux rouleur, en voulant mettre en fuite la bande de petits chacals ameutés sur ses talons, avait laissé tomber sa trique dont les gamins s'étaient emparés, et maintenant, incapable de faire un pas, il restait le dos au mur de la ferme, s'y cramponnait, glissait, chavirait, se relevait pour tomber encore, pleurant, demandant son bâton que Robin le cantonnier, tiré de sa sieste et de sa brouette, finissait par lui mettre entre les mains. Alors se joua un petit drame dont Richard, le front à la vitre, suivait les péripéties. Tandis que, dans un élan de pitié presque animal, le cantonnier avait pris le vieux pauvre par le bras et le calait tant bien que mal sur ses jambes flageolantes, des charretiers de la ferme rentrant de baigner leurs chevaux s'arrêtaient pour regarder, et leurs gros rires secouaient toute la route. Gêné d'abord, puis honteux, Robin se mit à rudoyer le vieux, qui s'effarait encore plus, l'entraînait dans ses glissades. Les rires redoublèrent. Du coup, le cantonnier lâcha prise, et le père Georges, éperdu, ahuri, tâtonnant comme un aveugle, croula sur les genoux, sur les mains, s'aplatit enfin de tout son long dans le monceau de boue soigneusement rejeté au bas de la muraille. « C'est abominable !» s'écria Richard, indigné de la joie bête de tous ces rustres. Élise, trompée à sa colère, crut devoir manifester son horreur de l'ivrognerie, surtout chez les vieilles gens. Il la trouva stupide, et Madame Fénigan, sachant la faiblesse de son fils pour les routiers, spécialement pour celui-là, se hâta de chercher une diversion.
« Regardez donc, mes enfants, en voilà un miracle, l'abbé Cérès avec une soutane neuve !»« C'est le desservant de la petite paroisse, cet abbé Cérès ?» demanda Élise. « Oui, cousine, et un très brave homme, mais je suis de l'avis de notre cher curé, il manque un peu de dignité, de tenue ecclésiastique. Concevez-vous qu'il avait recueilli chez lui tous les Lucriaux, cette famille de braconniers, la grand-mère, les deux filles, pendant que le père était à la prison de Melun. »
Richard se retourna avec brusquerie.
« Sans ce prêtre, ma mère, quand Lucriaux est revenu de Melun après son acquittement ?»
Il s'interrompit pour regarder sur la route où les clameurs s'accentuaient. L'abbé Cérès n'avait pas qu'une soutane neuve. Son large chapeau, ses souliers à boucles faisaient aussi leur première sortie. Et, fier d'aller voir ses pauvres en habit de gala, le brave homme songeait.
« Bien sûr, ils ne vont pas me reconnaître !»
quand le rassemblement l'avait arrêté. Ce qu'il disait au vieux besacier couvert de boue et d'ordures, noyé dans un purin immonde, Richard, de sa fenêtre, ne pouvait l'entendre. Il comprit seulement que le prêtre, après un appel inutile à ceux qui l'entouraient, se penchait sur ce paquet de guenilles dégoûtantes, le relevait et l'entraînait par le bras, sans souci des rieurs, pas plus que de sa belle soutane. Pendant qu'il se perdait dans la courbe de la route, Élise dit en riant
« Il sera propre, monsieur l'abbé, tout à l'heure !»
Madame Fénigan ajouta
« Pourvu qu'il ne l'emmène pas chez lui !»«
Tu m'y fais penser, » dit Richard, gagnant vivement la porte. « J'ai un coin, moi, pour ce pauvre vieux. »«
Tu ne vas pas nous apporter ça ici !» cria sa mère.
Mais il n'entendit pas, déjà loin sur le grand chemin. Il rentra tard. On l'attendait pour se mettre à table. Un dîner à 12 couverts, comme il s'en donnait fréquemment aux Uzelles en l'honneur de la cousine, et où se retrouvait l'ancien personnel des dimanches, le notaire, successeur de Maître Fénigan, le propriétaire de la petite paroisse, et Jean Delcroux, juge au tribunal de Corbeil, épais et court garçon, qui, toujours en quête d'un mariage riche, tournait autour d'Élise avec des dents de loup, écartées et luisantes, entre des favoris de bois noir. Mais ce soir, le petit chaperon rouge n'était pas d'humeur folâtre ni coquette. L'indifférence de Richard, après la scène de la veille, ce qu'elle avait appris du vieux routier, longtemps appelé le pauvre de Lydie, que de motifs à réflexions inquiétantes, un peu trop fortes pour cette cervelle en mie de pain.
« Eh bien, cousin, et votre ami, votre vieux mendiant ?»
demanda-t-elle en s'attablant à côté de Richard, agressive et sous les armes, les bras, les épaules sortis de la plus saillante gaze rose. Il répondit que son ami dormait dans une petite baraque du bord de l'eau où Chuchin serrait les avirons et les filets.
« Au bord de l'eau ? Matin, il sera au frais ?»«
J'ai fait mettre un poêle, » dit Richard tranquillement. Ce poêle dans la baraque aux avirons la fit beaucoup rire. « Ni esprit, ni cœur, » songea-t-il, sans se douter du dépit caché sous ce rire d'écolière. Quelle différence avec sa femme, si pitoyable aux pauvres gens, se désolant, lorsqu'on sortait en voiture, de ne pouvoir faire l'aumône aux cheminots, s'emportant contre l'hiver le cocher, contre les chevaux qu'elle accusait de ne pas vouloir s'arrêter, ou toujours trop tard, le mendiant déjà loin, hors de portée. Ils le savaient si bien, les pauvres routiers, qu'en passant près du landau, jamais ils ne regardaient, jamais ils ne tendaient la main. Oh, l'accent apitoyé de Lydie pour dire cela, Richard l'avait encore dans l'oreille, sous le petit rire taquin de la cousine.
« Non, je vous vois installant le père Georges avec son Schubertski. Comment vous a-t-il remercié ?»«
En l'embrassant sur les deux joues, » glapit le juge de Corbeil.
« L'horreur !»
fit Élise, avec un cri d'épouvante repris en cœur par toute la table. Delcruz, heureux de voir son anecdote amorcée, continua. « Moi, ce n'est pas un simple mendiant, c'est un assassin, un condamné à mort, qui, une fois, a voulu m'embrasser à toute force.
« Mais ce n'est pas possible, voyons, Richard !»
dit Madame Fénigan, comiquement indignée.
« L'évangile de la Bécérède n'a pas tourné la tête à ce point !»
Richard se taisait. Le juge en profita. « C'était tout à mes débuts de magistrat, dans un petit trou qu'on appelle Sous-Carras. » Une voix l'interrompit. « Sous-Carras, frontière de Tunisie, excellent terrain pour l'alpha. »« Mon cher monsieur Mérivet, vous savez votre Algérie sur le bout du doigt. » J'arrivais donc à Sous-Carras comme juge de paix, faisant fonction de procureur de la République. Débarqué depuis une heure, je m'installais au jour tombant dans le rez-de-chaussée de mon prédécesseur, des chaises dépaillées, un petit lit de fer, quand mon garçon de bureau, mon chaouche, vint me chercher de la part du condamné.
Quel condamné ?
Et figurez-vous ma tête, en apprenant qu'il y avait à la prison de ville un malheureux qu'on s'apprêtait à guillotiner le lendemain matin. Ma fonction de juge de paix en territoire civil m'obligeait à l'assister jusqu'au montant de l'échafaud.
Cette chance d'arriver juste la veille !
À la prison, je trouve une espèce de fauve, maltais, mahonnais, noir, velu, lipu, qui me regarde avec des petits yeux jaunes, affectueux et niais, fond en larmes, et, dans un sabir de vache espagnole, me supplie de me laisser embrasser. Il puait comme un lion, le misérable. Voyant qu'il n'avait rien de mieux à me dire, je vais me coucher, éreinté de mes deux nuits de coricolo. Vers 3 heures du matin, mon chaouche m'éveille en sursaut.
« Y'a dit d'où, moussier juge de paix ?»«
Qu'est-ce que c'est ?» Le condamné à mort demandait encore à me parler. Il abusait cet animal-là. Mais comment refuser à un homme qui va mourir ? Toute la prison était debout. « Nous n'avons pas d'aumônier, » me dit le directeur en s'excusant. « Le condamné a peut-être quelques révélations à faire. » On m'amène près de lui, et le voilà qui, en me voyant, recommence à soupirer, à sangloter.
« Ah, monsieur Delcruz, monsieur Delcruz !»
Il fallut me laisser embrasser encore, car c'est tout ce qu'il désirait, frôler sa grosse lippe sur mes joues qu'il inondait de larmes.
« Ah, monsieur Delcruz, un si grand misérable comme moi !»
En allant à l'échafaud, en descendant de la charrette que je suivais à cheval avec les gendarmes, il réclama de nouveau, et je dus lui accorder la même faveur burlesque. J'aurais pu croire à une mystification si le moment n'eût été aussi tragique et si les minutes du greffe ne m'avaient révélé le motif de cette sauvage sympathie. Il s'appelait Juan Delcruz, des mêmes noms et prénoms que moi, bien qu'il fût de Port-Mahon et moi de Cahors. Une voix de femme demanda
« Quel crime avait-il donc commis, votre condamné ? Cela peut-il se dire ?»«
Oh, parfaitement, madame. Il avait coupé la tête à sa maîtresse qui le trompait. »
Dire qu'on l'eût acquitté pour sa femme légitime, murmura Napoléon Mérivée. Le même crime pourtant, et plus lâche, puisqu'il se sait impuni. En quoi le divorce intervient forçagement, opina la basse prudomesque du notaire. Le petit Napoléon fit un geste qui mit en danger la superbe carpe rôtie présentée autour de la table.
Ah oui, elle est propre, la législature du divorce. Qu'est-ce qu'elle a eu de bon ?
Mais de supprimer un usage barbare et de débarrasser le mari, sans effusion de sang, de la femme qui le déshonore.
Comme si le mari qu'on trompe et qui tue songeait à son déshonneur. Il tue par rage jalouse, déception d'orgueil et d'amour, quelquefois par crainte des ridicules, embarras de situation, et aussi parce que de faux moralistes lui ont soufflé le meurtre. Et vous croyez que le divorce peut rien empêcher de tout ça ? Vous figurez-vous Othello envoyant du papier timbré à Desdémone ?
Delcruz, qui tenait à flatter Élise, invoqua certaines existences de femmes pour qui la nouvelle loi semblait une délivrance. Mais le vieux Mérivée ne voulait pas en convenir. Pour lui, le divorce était l'anéantissement du mariage.
« Oui, madame, et pas autre chose, » répétait-il, tourné vers madame Fénigan qui protestait.
Autrefois, quand on se savait engagé à vie, on s'arrangeait du mieux possible, comme pour un long voyage. On faisait des concessions, des petits sacrifices aux manies de son compagnon de route. L'un se tassait, l'autre se gênait un peu. Aujourd'hui, dès la première humeur, le ménage se déclare incompatible. Tout craque à la moindre brisure. Plus d'indulgence, plus de patience. Et même lorsqu'ils se marient plein d'amour, nos jeunes gens gardent cette arrière-pensée. Si ça ne va pas, la porte est ouverte.
Pourtant, monsieur Mérivée, quand une pauvre créature comme...
Élise voulait dire « comme moi », mais des larmes l'étouffaient. Et ne pouvant continuer sa phrase, elle se versait coup sur coup de grands verres d'eau pour refouler son émotion. Après un moment de silence et de gêne, où chacun attendait qu'elle parlât, Mérivée s'adressa à la mère de Richard pour traiter la question impersonnellement. « À la pauvre créature qui ne trouverait le bonheur ni l'amour dans le mariage, voici ce que je conseillerais. Au lieu de divorcer, songez à la petite paroisse, à l'humble chapelle sans curé, dont le clocher a des lézardes où les ramiers du bois font leur nid. Qu'elle y entre seulement le temps d'un autre père, une simple prière de résignation et de renoncement. Tout le secret du bonheur est là. On connaissait la folie douce du bonhomme, et ce fut autour de la table un échange de sourires qui termina le dîner plus gaiement qu'il n'avait commencé. Le jour suivant, les routes séchaient jusque dans la forêt, Élise et Richard sortirent à cheval comme d'habitude. Ils traversaient le petit sénart, où d'étroits chemins ombragés de chênes s'entrecroisent parmi d'anciennes carrières abandonnées, ceux qu'on appelle les uzelles, envahis de liserons, de ronces, de fougères, avec de l'eau de pluie dans le fond, abreuvoir des lapins et des faisans. Élise proposa une halte de quelques minutes. Et sitôt leurs montures attachées au grillage en fil de fer qui entoure la chasse réservée des d'Alcantara, assis l'un près de l'autre sur la mousse, dans ce fouillis de ravines embroussaillées.
« J'ai une question sérieuse à vous faire, Richard, » dit-elle en le regardant bien en face. « Votre réponse aura une influence sur ma vie. Aussi, je la veux très franche et sans restriction. Que pensez-vous de M. Delcruz ? Croyez-vous qu'il puisse faire un bon mari ? C'était si peu ce que Richard attendait. »
Il hésita, mit longtemps à trouver un mot, et encore ce mot fut-il une bêtise.
Pour vous, ce mari ? Pour moi, je m'ennuie de vivre seule. Je vous parais à tous très gai, si vous saviez que je ris souvent sans en avoir envie.
L'espièglerie de son petit nez, de sa bouche gamine au coin moqueur, démentait la mélancolie du couplet. Mais l'accent en était sincère et lui rendit la sympathie de son cousin. Que de complications dans l'être le plus simple. Si elle lui eût dit « M'aimez-vous, puis-je espérer que vous divorcerez un jour et que vous voudrez de moi pour femme ?» Sa réponse était prête. « Je ne vous aime pas, je ne veux pas me remarier. » Et cependant, il dut faire effort pour lui conseiller d'en épouser un autre. Honnête homme, Delcruz ?
Oui, je pense. Mais tellement ambitieux et si peu tendre. Je me le rappelle, il y a 2 ans, quand il fit condamner l'assassin des Meillottes. Il se frottait les mains en mâchonnant. « Enfin, nous la tenons, cette tête !» Il en avait comme une mousse de plaisir au bord des lèvres.
« Vous m'épouvantez !» dit Élise, avec une évidente satisfaction de ce signalement antipathique où se démêlait de la jalousie. Mais, comme s'il voulait s'en défendre, Richard reprit vivement.
« Oh, je ne crois pas qu'il vous rende malheureuse. Pourtant... »
Il s'arrêta, anxieux, incertain. Et le grand silence de la forêt autour d'eux, fait de frissons et de chuchotis, craquements d'insectes sous la mousse, bourdonnement aux cimes lumineuses des arbres, ressemblait bien au mutisme de leurs lèvres frémissantes gonflées d'aveux. Pourquoi la trouvait-il si tentante ce jour-là, dans son amazone bleu marine qui l'engainait, courte et replète, jusqu'à la ligne rose pâle du cou? Pauvre petit chaperon rouge aux griffes de ce chat fourré! Richard se dressa brusquement et, très ému, attendait 2 jours avant de lui répondre. Elle songea, c'était si simple, tout de suite, et se leva comme à regret, très lentement. Leurs chevaux, à toute bride, suivaient maintenant la route dite diagonale qui coupe la forêt en largeur, traverse des zones forestières variées, peuplement de sapins, d'aunes, de bouleaux, de chênes, clairières de charbonnage où, dans la fumée éparse, s'entrevoient des huttes d'herbage et de terre battue, entourées de poules, d'enfants, de stères de bois coupés, alignés, de bourrées en pile sur des charrettes. Ils galopaient ainsi depuis une demi-heure sans un mot, emportés par leurs désirs et par leurs rêves, lorsque, au bout d'une longue hêtrée, touffue et haute, en arceau, ils aperçurent un relais de chasse Louis XV au portail cintré, aux fenêtres géantes, devant lequel un groupe de forestiers à cheval, veste bleue passementée d'argent clair, semblait attendre le carrosse de Madame de Pompadour. « C'est la faisanderie, » dit Richard à Élise, curieusement arrêtée. Que de souvenirs, et si navrants, évoquaient pour lui ce vieux logis où, les jours d'ouverture, sous la tente dressée en face du portail, Lydie s'asseyait à la droite du général-duc, toute jolie et toute fière. Les forestiers venaient de s'écarter avec respect devant un très élégant cavalier, militairement sanglé de gris jusqu'au menton, qui se dirigeait vers le chemin de la diagonale. Richard tressaillit, stupéfait de retrouver, rajeuni, solide en selle, le malade qu'il croyait cloué sur son fauteuil, à gros bout, et qui passait près de lui sans l'apercevoir, uniquement occupé d'Élise. « Qui est ce monsieur ? » demanda-t-elle.
Mais il n'avait pas eu le temps de répondre qu'un second cavalier, beaucoup plus jeune que l'autre, en petite tenue de dragon, se détachait du groupe des gardes et s'élançait au galop derrière le général.
Cette fine moustache, ces boucles fauves sous le képi, Fénigan retint un cri de surprise et de rage. Charlet, c'était Charlet. Dans les dragons? Et Lydie alors? Où l'avait-il laissée? Que devenait-elle?
Ses oreilles bourdonnaient, les hêtres de l'allée lui semblaient grandis, démesurés. Élise, très loin, toute petite, avec des gestes et des mots qu'il ne comprenait pas. Puis, subitement, avant qu'elle pût s'expliquer ce vertige, elle le vit tourner bride et partir comme un fou à la poursuite du père et du fils, disparu déjà au lointain de la longue allée. Elle le rejoignit au chêne-prieur, où Richard s'était arrêté pour interroger un charretier du charbonnage, perché tout en haut de son chargement, et dont la voix sonnait, martelée et forte, dans l'air libre de la clairière.
« Sûrement oui que c'est le prince, à preuve qu'il est venu chasser dimanche avec l'Indien et qu'il m'a donné une pièce 40 sous à notre Guillaume pour le rabattage. Rapport en son service au dragon, ça, le fils à Foucard de la charrette des morts et le garçon de Gênes vous renseigneront mieux que moi là-dessus. » D'abord qu'ils sont tous deux dans le même escadron que le petit Charles Six.
« Merci, » dit Richard, blanc comme un fût de bouleau. Et tout bas à sa cousine,
« Rentrons, je souffre. »
Jusqu'au château, elle ne put lui arracher une parole, mais le « poum, poum, poum » qu'il chantonnait dans sa barbe expliquait sa torture intérieure. Élise songea « J'ai perdu ma peine ». Et, sitôt rentrée, monta dans sa chambre cacher ses larmes pendant que Richard allait retrouver sa mère au potager. C'était l'heure apaisante après la grande chaleur de la journée où les fleurs boivent et se baignent. Dans le ruissellement de l'eau le long des bordures, sous la caresse oblique et tiède du soleil, elles se redressaient, s'étiraient voluptueusement. Et leur éclat, s'avivant à mesure que diminuait le jour, soulignait l'antagonisme éternel de la couleur et de la lumière. Des nuées de papillons rayaient l'air au-dessus des plates-bandes. Le heurt des arrosoirs à la margelle des bassins, un ordre bref du jardinier à l'un de ses aides, troublait seul l'activité silencieuse de cette fin de jour, d'une fraîcheur, d'une douceur enveloppante. « Qu'as-tu ? » demanda Madame Fénigan, voyant son fils arriver tout bouleversé dans la serre où, le sécateur en main, elle émondait des arbustes rares. Au lieu de répondre, il questionna « Charles-Alexis est donc de retour ?»« À Melun depuis 2 mois, engagé au dragon. Tu ne savais pas ?»« Et elle, où est-elle ? Qu'en a-t-il fait ?»« Ce qu'on fait de ces femmes-là, » répondit la mère en tranchant une branche d'un coup sec. « La débauche payée, on s'en débarrasse !» Elle parlait si haut que les jardiniers pouvaient l'entendre. Richard ferma la porte vitrée et reprit d'une voix dure que sa mère ne lui connaissait pas. « Lydie n'était pas une débauchée, mais une victime de la tyrannie, une prisonnière qui s'évade, disait sa dernière lettre. Et puis tu n'as pas le droit d'insulter la femme qui porte notre nom. » Les yeux de Madame Fénigan étincelèrent. « Il y a longtemps que tu aurais dû le lui ôter, ce nom, puisque tu le pouvais. »« Le divorce, n'est-ce pas, pour me faire épouser la cousine qui se pavoise avec des signaux de navire, ça n'y compte pas. Jamais, jamais. »«
Oui, je comprends. Tu préfères le catéchisme de la petite paroisse. Demander pardon à la coquine de tout le ridicule dont elle nous a couvert, ensuite l'installer, non plus dans le pavillon, mais au château, chez ta mère pour faire ses couches. »
Mais sitôt ces tristes paroles, elle aurait voulu les retenir devant la pâleur subite de Richard et le tremblement de ses lèvres. Elle eut un élan tendre, des bras ouverts qu'il repoussa brutalement avec un geste fou.
« Enceinte ? Mais tu m'avais dit qu'elle ne pouvait pas. Pourquoi mentais-tu ? Pourquoi m'as-tu toujours menti quand tu parlais d'elle ? Tu la haïssais donc bien ?
Elle était le tourment et la honte de ta vie. Oui, je la détestais. Mais sois tranquille, le ton dont tu me traites me sert de leçon. Il ne sera plus question d'elle entre nous. Reprends-la, soigne-la, reconnais le bâtard à sa naissance. On lui assure 200 000 francs. Bonne opération, comme tu vois. »
Blessée à fond dans son orgueil, dans sa passion maternelle, elle affectait de continuer son émondage, ponctuant chaque phrase d'un cisaillement bref. Mais Richard ne la laissa pas faire.
« Prends garde, ma mère !»
Il lui saisit les poignets, la retourna vers lui violemment et, désespéré par tout ce qu'il venait d'apprendre, mit ses traits convulsés tout près de ce visage de vieille femme qui lui ressemblait, puis se débonda.
« Le tourment de ma vie, c'est toi, m'entends-tu ? Toi, pas elle ! Depuis mon enfance que tu enfermais dans une chambre de malade en la privant d'air et de mouvement, ton égoïste amour m'a empêché de m'épanouir, de devenir un homme. Pour me garder près de toi, tu m'as tyrannisé comme tu avais tyrannisé mon père. Tu as flatté ma paresse et mes vices, tu m'as rendu toute carrière impossible. Afin que je ne me marie pas, qu'il n'y ait pas ici d'autre influence que la tienne, tu poussais tes servantes dans mon lit. Allons donc, comme si je ne t'avais pas vu faire. Et cette pauvre petite que tu es allée chercher à l'Orient, à moins de me la jeter dans les bras, que n'as-tu essayé pour qu'elle devint ma maîtresse, et rien de plus que ma maîtresse, puisque son mari est encore vivant et que l'Église ne reconnaît pas le divorce. Mais tout, plutôt que de revoir chez nous celle que ton despotisme en a chassée et dont tu fus toujours jalouse. Ah, elle est jolie ta religion, jolie le pharisien qui mène ta conscience. Mais rien n'y fera, rien. J'aime ma femme, tu entends ? Je l'aime et je lui pardonne, car je suis coupable envers elle de ne pas l'avoir défendue contre toi, contre ta méchanceté. Pleure, pleure, va.
Elle pleure encore plus, celle qui est seule, abandonnée je ne sais où. Oh, mais je la retrouverai. Plutôt que de continuer l'existence que je traîne loin d'elle, en face de toi, j'aimerais mieux mourir, me déchirer avec ça, tiens.
Richard, mon enfant !»
Il voulait lui arracher le sécateur, mais plus prompte et plus adroite, elle jeta les lourds ciseaux au fond de la serre dans un fouillis de plantes et de fleurs froissées.